Bienvenue à l'émission Dans la mer climatique sur les ondes de CHIZ 94.3. Je suis Naomi Laflamme, votre animatrice, et je suis en compagnie de mes deux co-animatrices, Jeanne. Allô, Jeanne.
Bonjour.
Et Sarah Jeanne.
Bonjour.
Allô. Donc, aujourd'hui, à l'émission, nous allons discuter de l'importance de la responsabilité individuelle dans la lutte au changement climatique. Donc, dans notre société, particulièrement au Québec, on peut dire qu'il y a un consensus là, par rapport à la nécessité d'agir face au changement climatique. Et l'idée est aussi généralement acceptée que nous devons faire chacun notre part pour réduire notre empreinte écologique et lutter contre les changements climatiques. Par contre, il y a quand même une idée assez persistante que les efforts individuels sont inutiles, que les gestes individuels font peu ou pas la différence, surtout si on se compare avec les activités polluantes des industries et des compagnies privées. C'est donc sur cette question-là aujourd'hui qu'on va se concentrer. Avons-nous une responsabilité individuelle face au changement climatique? Et si oui, quels efforts individuels sont les plus importants à mettre en place? Alors, pour commencer, est-ce qu'il existe des données sur les émissions de GES concernant les comportements individuels?
Donc, même si les comportements individuels en tant que tels là, ne sont pas les sources d'émissions de GES les plus importantes globalement, c'est plutôt le transport là, et les industries. Donc, les émissions individuelles, particulièrement dans les pays occidentaux, sont quand même considérables. Donc, en fait, il faut reconnaître que toutes les actions et les choix des individus là, contribuent de manière directe ou indirecte aux émissions de gaz à effet de serre. Au niveau individuel, c'est principalement là, les choix de consommation, donc, notamment au niveau énergétique et alimentaire, mais aussi au niveau des moyens de transport là, qui vont générer là, le plus de GES et qui constitue l'essentiel habituellement de l'empreinte carbone d'un individu. Donc, avant de continuer, mais l'empreinte carbone, c'est vraiment la quantité totale de gaz à effet de serre émis pour répondre à nos besoins. Ça comprend donc les émissions qu'on génère nous-mêmes directement par nos activités, mais aussi qui sont générées par les secteurs d'activité qui fournissent nos biens et services. Donc, si on se fie seulement aux chiffres québécois, l'empreinte carbone moyenne par habitant est de 8,4 tonnes par année. Puis si on compare au reste du Canada, là, on peut se consoler un peu puisque l'empreinte carbone par habitant est de 17,5 tonnes de carbone par année. Donc, par contre, pour respecter l'accord de Paris puis limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré là, d'ici la fin du siècle, bien, il faudrait réduire l'empreinte carbone par habitant à 2 tonnes environ là, par année d'ici 2050, ce qui serait une réduction là, quand même assez drastique.
Mm-hmm. Oui, et par rapport à ça, il y a un rapport publié en 2019 par Carbon 4 qui s'est concentré sur l'impact réel des gestes individuels sur l'empreinte carbone. Ça, c'est dans un contexte français. Selon ce rapport-là, si tous les individus apportent des changements significatifs à leur comportement, on peut penser à devenir végétarien, arrêter de prendre l'avion, se déplacer principalement en vélo, ça nous permettrait de réduire notre empreinte carbone de 25 %. Donc, quand même le quart de notre empreinte carbone. Si tout le monde se concentre aussi sur des actions avec des investissements, c'est-à-dire des rénovations éco-énergétiques ou remplacer sa voiture à essence par une voiture électrique, ça pourrait amener une réduction supplémentaire de 20 %. Donc, de manière combinée, là, ça serait une réduction de 45 %. Par contre, cette réduction de 45 % est peu plausible parce que ça nécessiterait tous les individus adoptent des comportements éco-responsables exemplaires. Si on reste un peu plus réaliste et qu'on a des attentes plus modérées envers les actions individuelles de la population, on estime qu'on réussirait à réduire l'empreinte carbone en moyenne de 20 %. Donc, la réduction des émissions individuelles peut faire une différence pertinente quand même, mais on ne pourra pas réussir nos objectifs de réduction si on se concentre seulement sur la responsabilité individuelle.
Mmh. Donc, ben justement, ben pour ça, c'est quand même un chiffre qui est significatif, mais c'est loin d'être au moins la moitié là, de notre empreinte carbone. Donc, effectivement, ça peut faire un effort, ça peut faire un effet dans la lutte au changement climatique, mais pas seul, effectivement. Donc, en fait, là, d'ailleurs, par rapport à ça, ben, il y a plusieurs personnes qui critiquent le fait qu'on se concentre trop sur le devoir individuel dans la lutte climatique et que, en fait, à place de se concentrer sur l'effort individuel, on devrait plutôt vraiment rejeter principalement la faute et la responsabilité au gouvernement et aux compagnies parce que c'est eux les plus grands pollueurs par leurs activités, mais c'est aussi eux qui auraient le plus le pouvoir là en fait d'entreprendre des changements d'envergure pour réduire leurs émissions. Donc en fait moi personnellement pendant un moment j'ai aussi été de cet avis-là, puis en fait je me disais que de mettre autant l'accent sur la responsabilité individuelle, par exemple dans les médias ou par les acteurs étatiques, ben c'était un peu hypocrite parce que ça faisait qu'on rejetait vraiment la faute principalement sur les individus, mais en même temps on ignorait les comportements là, des industries. Et donc, dans ma tête, si on mettait autant d'énergie sur les individus, mais on pouvait pas les mettre sur les industries puis sur les acteurs étatiques, là, donc ceux qui peuvent vraiment faire une différence. Mais en même temps, là, on peut comprendre qu'il y a vraiment une nuance à avoir. Mm-hmm. En fait, c'est pas que si on met l'énergie sur les responsabilités individuelles, on peut pas la mettre sur les compagnies ou sur les plus grands acteurs. Les deux peuvent se faire en même temps.
Exact.
Donc, mm-hmm. C'est pour ça que je dis que, justement, j'ai eu cette évolution-là, mais je comprends qu'il y a plusieurs personnes qui trouvent que ça vaut pas la peine, puis je trouve que c'est une critique quand même qui se vaut. Mais donc, en fait, comment les gouvernements et les industries, vu qu'ils ont le plus grand pouvoir d'action, puis ont aussi une plus grande responsabilité, pourquoi c'est important quand même d'aborder la question des responsabilités individuelles?
C'est important là de considérer la responsabilité individuelle dans la lutte au changement climatique puisque tous les efforts pour lutter contre la crise climatique sont essentiels, que ce soit au niveau individuel, politique, institutionnel là, ou industriel. Donc en effet, les efforts individuels sont nécessaires, mais non suffisants évidemment là, seuls pour lutter contre les changements climatiques. C'est la même chose pour les efforts politiques et industriels. Ils sont nécessaires, mais non suffisants. Ils ne sont pas combinés aux efforts individuels. Donc il est compréhensible que certains critiquent l'emphase sur un blâme individuel. Mais en fait, ce qui serait vraiment problématique, ce serait demander que les individus portent principalement la responsabilité, ce qui ignorerait complètement les responsabilités politiques et économiques. Mais c'est pas le cas ici. Donc, les deux doivent être pris en compte, autant les efforts individuels que collectifs. C'est sûr qu'évidemment, les efforts individuels peuvent être aidés par le fait qu'il y a des politiques en place, donc des incitatifs là, à agir. Mais vraiment, là, c'est qu'en fait, si on met tous ces efforts-là ensemble, ben on a le potentiel là, d'atteindre une suffisance là, au niveau de la lutte au changement climatique. Donc bref, tous les efforts combinés sont nécessaires pour réduire au maximum les émissions là, de GES. Puis habituellement, là, c'est quand même un cercle vertueux, donc entre eux, ils peuvent se renforcer là, puis accélérer l'action individuelle aussi quand on a des options là, pour avoir un mode de vie là, qui est plus sobre en carbone.
Voilà. Puis aussi, si on combine les actions collectives et individuelles, ben on peut aussi changer les normes sociales et donc, en fait, encourager dans les deux sens là, cette réduction-là. Donc, effectivement, un très bon point. Donc, en fait, on vient de voir justement que les efforts individuels ont vraiment un impact tangible qui est estimé à 20 % si on adopte des comportements plus éco-responsables. Mais c'est quand même facile au niveau individuel de se dire que nos propres actions isolées ne font pas de différence réellement. Donc même si je prends ma voiture une seule fois alors que j'aurais pu marcher, est-ce que ça fait vraiment une différence puis que ça cause vraiment les changements climatiques? Ben on dirait que non. C'est difficile de se responsabiliser par rapport à ça. Puis justement, ben c'est facile de s'imaginer que cet effort, nos efforts individuels en fait de réduction, ça représente un peu comme une goutte dans l'océan là, par rapport à l'ensemble des gaz à effet de serre. Donc ça peut être aussi un frein là, à la motivation pour cet effort-là. Donc on peut justement comprendre pourquoi l'engagement individuel peut être difficile aussi. Alors, si on essaie de contourner ce frein-là, quels sont les principaux arguments moraux qu'on pourrait utiliser pour justifier l'importance de la responsabilité individuelle?
En effet, ben c'est pas une action polluante isolée qui aggrave directement les changements climatiques, mais c'est plutôt l'agrégation là, de toutes les actions individuelles polluantes qui, elles, sont tangibles et causent les dérèglements climatiques. Donc ici, il faut mobiliser des considérations morales, c'est-à-dire pourquoi on a un devoir individuel d'agir contre les changements climatiques. Donc même si on peut pas observer ou mesurer l'impact direct d'une action polluante isolée, on sait quand même que les actions polluantes font une différence en augmentant la concentration de GES dans l'atmosphère. Donc plus la concentration de GES est élevée, plus on risque de franchir là, un point de bascule qui est le déclenchement là, de perturbations climatiques brusques et imprévisibles qui sont irréversibles. Donc par exemple, l'extinction d'espèces vivantes en chaîne, la disparition accélérée des glaciers, et autres. Ainsi, en contribuant à l'augmentation des GES dans l'atmosphère, même minimalement, on contribue à rapprocher l'humanité d'un de ses points de bascule. Donc, on augmente la probabilité de créer un tort irréversible. Donc, dans ce cas-là, on peut invoquer le principe de tort anticipé qui stipule qu'il est mal d'entreprendre une action si celle-ci a un plus grand potentiel de causer du tort qu'une autre alternative disponible, qui serait ici de ne pas faire l'action polluante considérée. Là. Donc, que ce soit prendre la voiture au lieu de prendre le transport en commun ou acheter là, un produit, par exemple, qui viendrait de l'autre bout du monde quand on aurait là, une option là, plus abordable et plus proche. Évidemment, là, il y a quand même des enjeux sociaux en lien avec ces choix-là, mais voilà. Donc, ce principe fait aussi un lien avec les deux autres principes moraux qu'on pourrait justifier dans ce cas-ci. Donc, le principe de contribution, soit qu'on a une obligation morale de ne pas empirer le problème, donc de ne pas contribuer ici là, au changement climatique. Mm-hmm. Et aussi le principe de risque, donc soit qu'on a une obligation morale de ne pas augmenter le niveau de risque là, par rapport là, aux autres là, possibilités. Okay.
Si je peux me permettre, on peut aussi reconnaître qu'on a une obligation morale de lutter contre les changements climatiques qui peut découler des principes de justice climatique globale dont vous avez déjà parlé, mais qu'on peut appliquer au niveau individuel. D'abord, on peut mobiliser les capacités, les principes de capacité et le principe de responsabilité historique au niveau de l'individu. En ce qui concerne le principe individuel de capacité, on postule que tous les individus doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour combattre les changements climatiques, et ce, dans la mesure de leur capacité. Donc, on ne s'attend pas à la même chose de tout le monde, comme tout le monde a des capacités différentes. Ça vaut particulièrement pour les citoyens et citoyennes des pays occidentaux. On partage aussi la responsabilité historique des États occidentaux qui ont bénéficié, en fait, qui ont profité de l'industrialisation et de l'exploitation des ressources pour se développer économiquement. On profite donc d'un niveau de vie qui est plus que convenable et on a plus de capacité de manière générale pour agir. Même si c'est pas le cas, là, tu sais, chaque individu a quand même des capacités différentes. Ça nous donne donc, pour la plupart, des capacités plus concrètes, en fait, d'agir pour le climat.
Ouais. Donc, quand on parle justement d'action individuelle, d'efforts individuels, on pense automatiquement à des petits gestes concrets là, dont on entend souvent parler. Donc, essayer de délaisser la voiture, privilégier le transport actif, au niveau de la consommation aussi, de nourriture. Mais en fait, les actions individuelles, c'est vraiment plus que ça. Puis il y a vraiment un large éventail d'actions individuelles qui peuvent avoir un impact, en fait, sur notre empreinte carbone. Donc, en fait, quelle est l'étendue de ces actions individuelles-là qu'on peut adopter, nous, en tant qu'individus?
C'est assez large, en fait. Il y a trois grandes catégories d'actions individuelles qu'on peut entreprendre. Tu parlais de la consommation, mais il y a la consommation, il y a la participation et il y a des actions en termes politiques. Donc, les efforts au niveau de la consommation, c'est souvent les premières solutions qui nous sont proposées ou qui nous viennent en tête. Donc, généralement, ça va inclure nos habitudes de transport. Oui, on peut effectivement privilégier le plus possible le transport actif ou même le transport collectif au lieu de la voiture solo. On peut aussi réduire au maximum nos voyages en avion, privilégier, bon, quand c'est possible, le train ou les autobus interurbains pour les longs voyages, là, par exemple. Aussi, il est possible d'agir au niveau de nos habitudes de consommation alimentaire, qui est aussi un angle dont on entend beaucoup parler, disons ça comme ça. Donc, on peut privilégier un régime alimentaire avec moins de viande, mais aussi avec plus de produits locaux, de produits de saison, ce qui réduit considérablement, en fait, les émissions qui viennent du transport aussi, mais les émissions de l'élevage et de la transformation des aliments. On peut aussi agir au niveau du gaspillage alimentaire. Par exemple, on peut faire du compost, on peut essayer de sauver des légumes un peu plus laids à l'épicerie. mais il est aussi pertinent de s'attarder à la réduction de notre consommation énergétique. On peut le faire en réduisant notre consommation d'énergie à la maison, donc par le chauffage, la climatisation. Mais on peut aussi prioriser des électroménagers éco-énergétique et également favoriser les rénovations qui visent une meilleure efficacité énergétique. Mm-hmm. Ça peut être, par exemple, par le choix des matériaux utilisés dans la construction.
Ouais.
Toujours au niveau de la consommation, on peut miser sur l'économie circulaire. Ça, on en entend parler dès le primaire. Là, on priorise la réutilisation, le recyclage, on réduit nos achats, on favorise les produits de seconde main. En misant sur des efforts de consommation éco-responsable et durable, on peut aussi influencer d'une certaine manière les actions des compagnies pour qu'il y ait des pratiques plus consciencieuses. Si on est plusieurs à changer nos habitudes de consommation, ça va inciter les compagnies à se conformer à la demande et à adopter des méthodes et à vendre des produits éco-responsables. C'est donc une manière, là, par notre action individuelle, de forger une meilleure action climatique de la part des compagnies et des industries. Donc, on vient un peu à la fois chercher l'action individuelle, mais aussi chercher là, l'aspect économique des grandes entreprises.
Oui, effectivement. Puis, ben c'est sûr qu'au niveau de la consommation, souvent, on se concentre... On a un des arguments, des critiques par rapport à ces suggestions-là, ben c'est le coût. Donc, ça coûte plus cher ou quoi que ce soit. C'est pas disponible à tout le monde. C'est effectivement des critiques qui se valent, là, bien entendu. Mais c'est pas seulement d'acheter des affaires différentes qui vont vraiment faire une différence, mais c'est vraiment de repenser nos modes de consommation. Donc, justement, avec il y a l'économie circulaire, mais juste la question de est-ce qu'on en a vraiment besoin, de vraiment se concentrer sur... Le minimum, en fait. Là. Donc, c'est aussi de délaisser la surconsommation de produits neufs, mais aussi, au même titre, là, les produits usagés. Là. Par exemple, même si on... en consommant des vêtements usagés, c'est sûr qu'on n'incite pas au fast fashion, mais en même temps, si on n'a pas vraiment besoin de ces vêtements-là, ben encore une fois, on embarque dans les mêmes patterns problématiques de surconsommation. Donc, c'est un petit clin d'œil comme ça que je voulais faire.
Ben merci.
mais il y a d'autres actions, pas seulement au niveau de la consommation, qui peuvent être mises en place.
En effet, là, il y a aussi la participation, donc la participation individuelle à la lutte climatique pour surmonter le sentiment d'impuissance qui est assez répandu là, avec l'éco-anxiété, donc créé par la perception qu'il est trop tard pour agir, puis que le problème là est hors de notre portée. Donc la participation, là, évidemment, là, c'est autant au niveau politique là, qu'au niveau de la consommation. Donc le fait que en faisant des choix de consommation, on peut influencer là, les industries, mais également là, que par le vote, on peut influencer les décisions qui seront prises aux autres niveaux et qui peuvent ensuite là, aider là, la participation individuelle. Donc, les efforts individuels créent de l'espoir, puis un sentiment de satisfaction à savoir qu'on fait une bonne action puis qu'il est possible de faire partie de la solution. Mm-hmm. Donc, oui. C'est plusieurs formes d'implication, là, que ce soit au niveau citoyen, au niveau étudiant, au niveau plus de la vie publique. Donc, par exemple, avec les manifestations sur le climat, mais aussi de se renseigner, là, par exemple, sur les enjeux climatiques, de partager ses connaissances, ses trucs aussi aux gens autour de nous pour réduire notre empreinte. Mm-hmm. À ce sujet, je vous suggère là, deux lectures, là, notamment Sauver la planète, une bouchée à la fois de Bernard Lavallée, donc, qui est super intéressant pour toute la question de la consommation là, au niveau alimentaire, mais sinon aussi le nouveau livre qui vient de sortir, donc Vivre avec une seule planète, qui vraiment le fait un portrait dans le fond de chaque secteur puis qui peut nous donner des trucs pour chaque secteur de consommation avec aussi là comme un code de couleur de pastille là, pour par exemple c'est quoi les opportunités pour faire des économies, quelles sont les opportunités les plus faciles à intégrer, des choses comme ça, donc qui peuvent là aussi nous orienter dans où commencer, parce que parfois ça peut être aussi un peu anxiogène quand on est devant le panorama de mesures, mais laquelle je décide d'appliquer en premier, laquelle qui va s'intégrer le mieux, puis qui va être aussi facile de transformer en habitude, parce que c'est ça la clé avec les actions individuelles, c'est faut que ça devienne là, récurrent.
Oui, c'est ça.
Si vous prenez une fois l'autobus au lieu de prendre l'auto, c'est pas ça qui va faire une différence. C'est d'intégrer les transports collectifs dans son mode de vie.
Oui, effectivement. Non, c'est vraiment des bonnes suggestions. Merci beaucoup, Jeanne. Puis, dernière section des actions.
Oui, en fait, c'est les actions au niveau politique qui passent par l'action individuelle. Parce que dans le fond, il faut investir les structures sociales pour amener des changements, puis pour engendrer des actions et des efforts qui vont devenir collectives, politiques et institutionnelles. Toutes ces actions-là partent d'individus qui sont motivés, qui ont l'environnement à cœur et donc qui décident d'agir. On a le devoir d'abord de rester informé dans le but de rester attentif aux actions des gouvernements au niveau climatique et d'exiger des mesures concrètes là, aux acteurs politiques concernés. Par contre, on a aussi la responsabilité de voter pour des partis qui présentent des plateformes climatiques ambitieuses. Il est donc nécessaire de s'informer pour faire les bons choix. Mais je dirais plus que ça encore, il y a certaines personnes qui se sentent pas nécessairement à l'aise de voter pour les partis qui proposent déjà des solutions ambitieuses au niveau de l'environnement. C'est correct, chacun a ses positions politiques. Par contre, il faut aussi investir les partis qui existent, qui n'ont pas encore de plateforme climatique ambitieuse, et forcer les gens dans ces partis-là à prendre des décisions puis à prendre des actions pour réduire les GES. Oui. Donc, on a toutes certaines positions politiques, mais l'environnement va au-delà là, de ces positions politiques-là, oui. Que ce soit économique ou sociale.
Ça devient transpartisan un peu.
Exactement. Ça doit être transpartisan parce que sinon, on n'y arrivera pas. Puis, je veux dire, l'environnement, peu importe par quel angle on le prend, peu importe tes positions économiques ou sociales, l'environnement vient toucher ces enjeux-là. Donc, il faut investir tous les partis politiques, en fait, pour avoir... un plan concret, peu importe qui est élu, parce que des élections, c'est rapide, puis on peut pas régler la crise climatique en 4 ans.
Oui. Puis à ce sujet-là, si tu me permets.
Ben oui, vas-y.
En fait, on a un super bon exemple, justement, de comment, d'une évolution d'un parti politique, la Coalition Avenir Québec. Avant 2018, il était bien reconnu pour ne pas avoir de plateforme environnementale. Mm-hmm. Puis, c'est sûr que là, ça a changé au cours des années. C'est sûr que aussi il était au gouvernement, donc c'est sûr qu'il devait mettre en place des mesures environnementales et climatiques, mais on voit quand même que c'est possible que cet enjeu-là soit présent là, même chez des partis que c'est pas leur cheval de bataille, en fait.
Exactement.
Donc, voilà. Ouais, ça peut passer par le membership aussi là, au niveau des partis. Donc, quand vous êtes membre d'un parti, évidemment, vous avez une opinion là, qui peut être véhiculée là, à travers la plateforme. Ça peut être une option si vous êtes... Mais on comprend qu'évidemment, là, parfois, la vie partisane, c'est pas pour tout le monde, mais il y a des gens que ça peut être une avenue dans laquelle s'investir, puis dans laquelle aussi forcer, parce que vous pouvez avoir une affinité avec un parti qui est peut-être pas le plus investi dans l'environnement, mais en vous impliquant dans ce parti-là, mais vous pouvez amener là, des changements. Là.
Oui, puis d'ailleurs, ce qu'on voit souvent, en fait, c'est que c'est les jeunes au sein des partis qui vont proposer des plans ou qui vont proposer des nouvelles mesures, en fait, durant les congrès ou durant les conseils, afin qu'ils soient intégrés à la plateforme électorale, mais aussi aux positions du parti. Donc, on voit que même si des fois, individuellement, on peut se sentir un peu impuissant, disons, il y a la possibilité partisane ici de s'impliquer afin de faire changer les choses. Mais il y a aussi des actions politiques moins partisanes, plus individuelles, comme la signature de pétitions, de contacter directement les élus. On a un député provincial, député fédéral. On peut écrire à ces gens-là afin de demander des actions concrètes là, dans sa circonscription. Ouais. Mais il y a aussi la participation à des consultations publiques pour des projets en lien avec des solutions de lutte climatique. Par exemple, ça peut être un changement de rue là, au niveau municipal. Il y a souvent des consultations. Il y a beaucoup de chemins. Par exemple, moi, j'habite dans Saint-Sauveur. Ils pensent à faire une rue partagée. Donc là, OK, comment on va changer le trajet d'autobus? Comment on va changer les trajets de transport actif? Donc, c'est vraiment important de rester à l'affût de ces opportunités-là de participation politique.
Puis justement, si c'est des actions qui vous intéressent, mais au niveau municipal, toujours d'aller consulter le site web là, dans le fond de la ville de Québec, où vous allez avoir là, l'ensemble des consultations, où vous allez pouvoir participer. Les suivre sur les réseaux sociaux, ça peut toujours être pratique également. Mais sinon, là, pour les actions plus au niveau provincial, tu sais, parfois on signe des pétitions qui sont faites plus par des OBNL, mais il y a la possibilité aussi de porter sa pétition au niveau politique, donc de demander à ce que la pétition soit endossée par un député, puis soit présentée à l'Assemblée nationale. Vous pouvez aussi signer ces pétitions-là. Puis pour tout ce qui est les consultations publiques aussi, vous avez l'opportunité de laisser un commentaire, de laisser un mémoire. Bon, évidemment, un mémoire, c'est un travail plus colossal, mais un commentaire, là, ça se fait très bien. Tout ça sur le site de l'Assemblée nationale. C'est les ressources qu'on pourra là, vous mettre disponibles sur nos réseaux sociaux.
Oui, c'est bien. Puis justement, on peut voir que par cette action politique-là, mais notre effort individuel peut aussi se transformer en action collective. Récemment, on a pu voir cet exemple-là avec Nordvolt. Mm-hmm. Il y a vraiment un regroupement qui s'est levé puis qui a exigé, qui a demandé une injonction pour l'arrêt de, si je me trompe pas, l'arrêt ou seulement vraiment des consultations publiques.
Mais on insiste pour la tenue d'un BAP. Là.
C'est ça, exactement. Bon, désolée, je me suis... j'étais allée un peu trop loin, mais c'est juste qu'on voit justement que si on... Par cette motivation-là individuelle, ben ça peut s'amener à des actions collectives qui peuvent avoir vraiment un effet au niveau politique, institutionnel, comme on peut le voir avec juste cet exemple concret-là.
Oui, puis les BAP, ben vous pouvez toujours également participer. Oui. Puis ça, c'est bien aussi, hein, parce que ces mécanismes de consultation publique-là, si on ne les utilise pas, si on les valorise pas, mais à un moment donné, c'est sûr que ça va prendre moins de place, mm-hmm. puis que les instances publiques vont moins sentir le besoin aussi de les utiliser. Donc, c'est vraiment important là, oui. de participer. Il y a toujours, dans le fond, là, sur le site du BAP également, là, les consultations qui sont en cours dans votre secteur, mais vous n'êtes pas obligé de vous limiter à votre secteur parce que le BAP constate là, que tous les Québécois doivent s'impliquer dans ces décisions-là. Fait que vous pouvez vous impliquer là, sur des sujets qui sont peut-être de nature plus globale là, au niveau
exact.
Des choix.
C'est un bon ouais. moyen de surmonter l'impuissance individuelle ouais. qu'on peut ressentir parfois. Puis si moi, individuellement, dans mon coin seul, je me sens complètement impuissante, c'est possible par la suite de trouver d'autres personnes qui sont dans le même ressenti, dans le même mm-hmm. genre de situation et donc qui peuvent collaborer avec moi.
Mm-hmm. Puis justement, se motiver là, collectivement. Donc... C'est ce qui met fin à notre épisode qui portait sur les responsabilités individuelles dans la lutte au changement climatique. Donc, d'ici à notre prochain épisode, vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook ou à l'adresse info@lamireclimatique.ca si vous avez des questions ou des commentaires. Donc, on vous remercie d'avoir été à l'écoute de Dans la mire climatique sur les ondes de CHIZ 94.3. À bientôt!